Je continue l'histoire de l'Église et cette fois-ci, nous sommes à l'époque de Constantin, exactement en 313. L'édit de Milan vient d'être proclamé, donnant toute liberté d'exercice à la religion chrétienne. Les martyrs sont victorieux. L'Église s'installe librement en pleine lumière. On voit se réunir avec fierté ceux qui portent les marques de leur fidélité. Une main coupée, un œil crevé. Ils montrent la gloire de leur plaie à la suite de la victoire de Constantin sur Maxence, celui qui se posait en défenseur du paganisme et avait dans ce but ramené des troupes de Numidie et de Mauritanie. Constantin arrivait de la Gaule. Les chroniqueurs rapportent que c'est à la suite d'une vision qu'il fit confectionner un labarum, une lance sur laquelle était attachée une transversale qui portait un étendard avec les deux lettres « qui » et « ro », première lettre du mot grec « Christos ». La personnalité de Constantin est discutée par certains historiens. Il aurait assassiné plusieurs personnes de sa famille et ne se serait tourné vers la religion chrétienne que parce qu'elle promettait le pardon. Notons en passant qu'il y a là une des caractéristiques, on pourrait même dire une singularité du christianisme. Peu de religions, aucune à ma connaissance, ne sont aussi dispensatrices de pardon que celles du bon pasteur, en particulier sous ses formes orthodoxes et catholiques. Constantin a attendu sa dernière heure pour se faire baptiser. Certains parlent d'un calcul politique. Quoi qu'il en soit, c'est Constantin qui a donné la liberté au christianisme après plus de 2 siècles de persécution. Il a agi en homme de foi. Il a aboli le supplice de la croix, a édicté le respect du dimanche et aussi celui du vendredi. Sainte Hélène, sa mère, entreprit des fouilles pour retrouver la vraie croix dont il voulait que l'image accompagnât toujours la sienne d'image. Il a transféré la capitale de son empire à Byzance, rebaptisée Constantinople, car il estimait que Rome était trop païenne et qu'Athènes ne valait guère mieux. Il affirmait que cette religion qui honorait Dieu était le salut de l'empire. Ce n'était peut-être pas un saint, mais c'était un politique courageux, comme nous aimerions là en avoir. La contrepartie de ce triomphe politique est que le côté héroïque du christianisme avait tendance à s'évanouir, disons à s'affaiblir. On se faisait chrétien pour plaire à l'empereur. En réaction contre cet abolissement, ne parlons pas de relâchement, il y eut un essor de la vie érémitique. Ne disons pas monastique, car les moines vivent en société et les ermites sont seuls. Parmi les plus célèbres de ces ermites, on cite un certain Saint-Antoine, c'est pas le Saint-Antoine de Padoue, ni même l'autre Saint-Antoine, qui serait né en Égypte vers 250, peut-être un petit peu plus tard, et mort en 356, donc à 106 ans. C'est peut-être quelques erreurs. On a des traces de Saint-Pacôme, qui a vécu de 292 à 346, ça fait avec 54 ans, et qui a dirigé 5000 moines ou ermites qui ont tout abandonné pour s'attacher à l'essentiel. Ce même IVe siècle marqua le début de la science ecclésiastique. Saint Athanas, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze et plus tard Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire de Nice ont senti qu'ils avaient besoin de science pour étayer leur sainteté. Donc, l'Église de Constantin mettait le Dieu des Écritures au-dessus de tout. C'est l'église de Pergame de l'Apocalypse. Mais comme l'église de Pergame, elle eut ses tentations intellectuelles. Pour échapper aux tentations mondaines, les âmes exigeantes se retiraient de la vie monastique. Il convient peut-être de rappeler que l'ascétisme le plus rigoureux suppose une société organisée. Pour qu'il y ait des ermites, il faut bien qu'il y ait des boulangers pour faire du pain avec le blé des agriculteurs. Plus tard, et surtout, il faut un minimum de sécurité. Les monastères supposent qu'on peut vivre tranquille sans se faire égorger au coin de la rue. Saint Benoît l'avait prévu dans sa devise Ora et Labora. Les moines ont toujours inclus le travail dans leurs règles. De nombreux récits témoignent des tentations sévères que les ermites ont eu à affronter. Les tentations de Saint Antoine ont fait l'objet de plusieurs peintures. Ne jamais oublier que Satan est très intelligent et qu'il connaît parfaitement nos faiblesses. Restons auprès de notre ange gardien et de la Vierge Mère du Rosaire. L'Église de Constantin connut plusieurs hérésies. Une étude du père Basile, moine au Barou, en a recensé une dizaine dont les noms peuvent varier d'un auteur à l'autre. Un premier schisme fut celui des donatistes, des rigoristes, dont certains n'hésitaient pas à s'exposer volontairement au martyr du temps de son époque, allant jusqu'à déclarer impie des évêques d'avoir simplement caché des livres sacrés ou révérant des martyrs non reconnus comme tels par l'Église. Ils prétendaient ne vouloir que des saints parmi eux et faisaient dépendre la validité des sacrements de la sainteté intérieure du ministre qui les administre. Ça, c'est une hérésie. Cette hérésie durera jusqu'au temps de saint Augustin, qui fit remarquer que l'Église sans tache n'est pas celle d'aujourd'hui, car le bon grain y pousse à côté de l'ivraie, et les bons et les mauvais poissons se trouvent côte à côte dans le filet. Mais c'est celle, l'Église très pure, se prépare pour demain. La validité de l'ordination ou du baptême, a fortiori de l'Eucharistie, ne dépend pas de la sainteté de celui qui administre, mais du pouvoir et de l'intention du dit ministre. Comme dans tous les schismes, dans toutes les hérésies, l'orgueil est la source et le moteur principal. On se figure détenir seule la vérité dogmatique, indépendamment de ceux auxquels le Christ l'a confiée. Une remarque de l'empereur Constantin à un évêque schismatique résume assez bien la situation. « Vous pensez comme nous sur le dogme, dit Constantin. Oui, absolument. Alors pourquoi vous séparez-vous de l'Église ? Parce qu'après la persécution, elle a reçu en son sein des hommes souillés de crimes inexpiables. Mon cher Acésius, répondit Constantin, prenez votre échelle et grimpez au ciel tout seul. » Je crois que ça devrait être redit à plusieurs personnes actuellement. Ce schisme perturba profondément l'Afrique. Saint Augustin lutta contre lui et tint une grande place dans sa réfutation. Les donatistes avançaient de fausses théories violentes. Ils oubliaient la parole de notre Seigneur, on vous reconnaîtra si vous vous aimez les uns les autres. Les donatistes visaient la pureté, la vérité, mais sans cette marque des vrais disciples du Christ. Ils se considéraient comme souillés s'ils habitaient d'une maison dont le propriétaire était marié, ou ils méprisaient ceux qui vivent une vie normale. Ils rejetaient le mariage, ils rejetaient aussi le service militaire. Ils ne croyaient pas à une société naissante, mais à un monde finissant. Ils manquaient de charité, comme les pharisiens, plus tard les jansénistes et les puristes. Ils ont été condamnés par Rome, puis par le concile d'Arles en 314, concile qui confirma un évêque condamné par les donatistes dans sa charge d'évêque de Carthage. L'affaire avait même été portée devant l'empereur Constantin. C'est la première marque d'une intrusion, si on peut dire, du pouvoir civil dans les affaires de l'Église. Ils ont encore duré longtemps, puisque saint Augustin a dû les combattre un siècle plus tard. Les questions de discipline étaient débattues avec passion dans l'Église d'Occident. Cela dure encore. C'est en Occident qu'il eut les pélagiens et jansénistes, la petite église des vieux catholiques, à l'origine de divisions que l'on pourrait appeler schisme plutôt qu'hérésie. L'Orient, du moins l'église de Byzance, tant que l'esprit grec et la vivacité de son intelligence y ont régné, a été tenté par des discussions beaucoup plus intellectuelles qui ont débouché sur des hérésies parfois meurtrières, hérésies d'autant plus pernicieuses que la langue grecque est beaucoup plus subtile que le latin. Sur le plan dogmatique, la vérité ne peut être atteinte qu'après un enfantement douloureux. L'exemple le plus illustre est celui de l'arianisme qui occupa l'Église pratiquement de 320 à 670, c'est-à-dire pendant 350 ans. La vérité ne se dégagea que lentement. Je cite l'abbé Huvelin. La première étape est celle où l'on croit que la vérité se trouve du premier jet, la seconde celle où l'on en doute, les choses semblent confondues. Dans une troisième étape, les doutes éclaircis contribuent à mettre cette vérité en lumière. Dans un premier temps, il y eut des hérésies que l'on pourrait qualifier de brutales, comme celle d'un certain Paul de Samosate disant « Le Christ est un homme qui a eu une communication plus large de la sagesse divine », ou celle des gnostiques pour lequel le Christ est un de ces esprits fantastiques, un de ces éons, intermédiaire entre le Créateur parfait et la création infinie et imparfaite. Ou bien encore les ébionites, le Christ n'est qu'un prophète comme Élie ou Jean-Baptiste, position reprise ensuite par les musulmans, pour lesquels le Christ est le plus grand des prophètes, après Mahomet, bien entendu. L'hérésie d'Arius est plus subtile. Si on disait « Arius le Christ, est-il le Verbe de Dieu ?» Il aurait répondu « Oui, c'est le Logos. » « Est-il le Fils de Dieu ?» Oui. « Engendré de Dieu ?» Oui. Mais il est distinct de Dieu le Père en ce qu'il a un principe et que le Père n'en a pas. Poursuivons. Si on lui disait « Le Christ est donc la substance de Dieu, communiquant à toute l'essence divine de toute éternité », Arius répondrait « Non, car ce serait prêter à Dieu l'infirmité humaine. Le Christ est Dieu, mais par la volonté de Dieu, il a été fait Dieu. Il est de rien et non tiré d'une substance qui fut lui. Il est Dieu avant tous les siècles, car les siècles ne se comptent que depuis la création. Autrement dit, il aurait été créé avant la création, donc avant tous les siècles. Certes, toutes choses ont été faites par lui, et le Christ était le bras de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné l'immuabilité. Toute cette erreur concernait le dogme de la Trinité. L'hérésie arienne avait une prétention scientifique avec des formules équivoques telles que « le Christ est Dieu avant tous les siècles ». Arius demandait essentiellement la suppression du mot consubstantiel, soulignant qu'il n'était pas dans les évangiles. Aurait-il gagné de nos jours? À tout cela, les catholiques répondaient « ce n'est pas le mot que nous soulignons, mais nous tenons à protéger la doctrine qui est dans l'Écriture, même avec des mots qui ne sont pas en elle ». Il faut se garder de présenter comme simples des questions très difficiles. Il est bon de les creuser, tout en sachant qu'elles resteront un mystère. En résumé, les causes de l'arianisme tiennent à la fois à une doctrine peu fixée avant le concile de Nicée quant à la formule, et à l'ignorance de certains évêques occidentaux dans les subtilités métaphysiques. Arius était un dialecticien, il avait de puissants amis jusque dans la cour de l'empereur, notamment chez Constantin II, le fils de Constantin Ier. On ne peut s'empêcher de hocher la tête en constatant que le mot consubstantiel, cœur de la définition de l'hérésie, a disparu de la nouvelle liturgie en français. C'est en 301, en Alexandrie, que fut énoncée la doctrine sur la Sainte Trinité en réponse à l'hérésie d'Arius, qui disait donc que Dieu n'est pas consubstantiel, que le Christ n'est pas consubstantiel au Père, mais simplement la première des créatures. Pour nous, il est consubstantiel au Père, de la même nature, bien sûr, mais même de la même substance de Dieu, ainsi que le Saint-Esprit. Voilà. La prochaine fois, nous essaierons de creuser tout ça, bien que ce ne soit pas facile.